Eh bien donc, deuxième invité pour nous, en fait, on reçoit RL Hubert, qui est la commissaire responsable de l'exposition « L'univers au creux des mains, splendeur des peuples autochtones de Colombie », qui est présentée au Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Très heureuse de vous accueillir. Bon, je dois dire dans un premier temps que je n'ai pas eu le plaisir de voir l'exposition. Cela dit, j'ai vu la publicité, c'est une bien belle publicité que vous nous offrez effectivement dans les médias, c'est très beau. Alors ça nous donne vraiment, c'est une belle invitation pour aller voir cette exposition. Alors bravo d'une part. Et puis RL Hubert, bon, vous êtes bon, vous avez quand même tout un parcours, vous êtes docteur en archéologie andine de l'Université de Cambridge, hein, c'est bien ça.
Oui.
Alors vous avez une spécialité déjà là sur le monde, sur les Andes et tout. Alors donc une exposition qui est le fruit d'une belle collaboration aussi, parce que vous avez travaillé avec d'autres musées pour bâtir cette exposition. Alors, justement, parlez-nous-en de cette belle collaboration.
Oui, ben en fait, c'est vraiment une exposition qui est créée à travers la collaboration, plutôt que par une personne spécifique. Et donc, au départ, il y a le Los Angeles County Museum of Art à Los Angeles, l'équipe là-bas, Julia Burtenshaw, Diana Magaloni, qui se sont retrouvés avec une collection d'œuvres de Colombie archéologiques et puis qui ont commencé à établir des liens, entre autres, avec le Museo del Oro, donc le musée de l'or à Bogota, en Colombie, ainsi que le Museum of Fine Arts à Houston. Et donc ça, c'est un peu la collaboration muséale, si on veut, du projet pour tout ce qui est la documentation des œuvres un peu plus techniques. Et puis, après, il y a oui, mais pour aller plus loin que l'identification, si on veut, scientifique des œuvres, de vraiment comprendre leur rôle, leur signification, il y a une collaboration sur plusieurs années, presque 10 ans, avec la communauté
quand même,
hein. Arhuaco du nord de la Colombie, la Sierra Nevada et Santa Marta.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette communauté? Parce qu'il y en a une centaine encore en Colombie, là,
oui,
de ces communautés autochtones.
Oui, là, évidemment, il y a plus de 100 groupes qui s'auto-identifient donc, de façon distincte selon le dernier recensement en Colombie, groupes autochtones. Les Arhuaco, en fait, il y avait une dame à Los Angeles qui avait déjà des contacts avec eux. Il s'agit d'un des groupes qui est le plus actif aussi au niveau politique, au niveau social, pour revendication du droit au territoire, de la protection de leur territoire, qui ont une relation très étroite aussi avec les œuvres faites par leurs ancêtres, les Taïrona, donc les œuvres archéologiques. Ce n'est pas nécessairement tous les groupes qui ont la même relation avec les œuvres anciennes, et donc ils étaient intéressés à participer au projet pour transmettre leur message. Et donc, c'est pour ça un peu que c'est vraiment la communauté Arhuaco, mais aussi avec des contacts avec d'autres communautés, mais et entre autres Raisen Villafaña et Mamo Camilo Izquierdo, qui sont deux des principaux collaborateurs Arhuaco de l'exposition.
Ah, ben écoutez, on sait que la mission, d'ailleurs, c'est d'après un mot de votre directeur général, Stéphane Aquin, directeur général du Musée des beaux-arts, donc il parle de la mission du Musée des beaux-arts, donc qui est un lieu d'échange et de rencontre où s'expriment et se croisent de multiples manières d'envisager la nature et le rôle de l'art. Et vraiment, l'univers au creux des mains, pensée et splendeur de la Colombie autochtone, ben, c'est tout à fait dans cet esprit, finalement, que l'exposition a été, que l'exposition nous révèle, finalement, se révèle, en fait, au musée. Alors, c'est vraiment le fruit, effectivement, de cette collaboration. Mais donc, ces peuples-là, qui, en fait, ces communautés autochtones, qui ont aussi une manière de voir le monde, de se représenter le monde, c'est très... D'ailleurs, votre approche, quand on entre dans le musée, je pense qu'on doit entrer dans un esprit un peu méditatif en même temps.
En fait, c'est la structure qu'on a choisi d'adopter aussi à Montréal particulièrement. On a été assez chanceux pour pouvoir vraiment la mettre en espace. C'est vraiment de prendre l'approche Arhuaco, c'est-à-dire de regarder à l'intérieur de soi en premier, d'essayer de reconnaître nos préjugés, nos a priori, de penser à quelle est notre place dans le monde. Puis une fois qu'on a fait ce travail plus introspectif, d'aller à la rencontre de ce qui nous entoure et de commencer à poser des actions. Donc c'est ce moment de réflexion qu'on voulait vraiment placer dans l'exposition, c'est-à-dire que c'est quand même une vision du monde qui change par rapport une vision plus naturaliste, si on veut, du monde nord-occidental, avec les œuvres qui seraient des objets, finalement.
Mm-hmm. Ouais,
tandis
bien
que
sûr.
Là, ce sont des êtres vivants, ce sont des messagers. Même chose pour tout ce qui nous entoure, les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes sont des personnes. Chez les, par exemple, les Yanakuna ou les Misak, l'eau est notre grand-mère. Donc, c'est vraiment une autre façon. Donc, au lieu de passer de la rapidité et du monde montréalais
oui.
habituel directement avec les œuvres, peut-être pour renforcer cet aspect de connexion avec les œuvres, il y a un petit moment où on écoute Raisan Viafania guider une sorte de méditation. Pour
mieux
prendre le
apprécier,
temps.
oui, prendre le temps. D'ailleurs, on parle beaucoup de... On a aménagé physiquement des espaces, beaucoup d'endroits où on peut s'asseoir, prendre notre temps, observer, réfléchir. Alors vraiment, bon, il faut dire que pour cette communauté-là, bon, tout est... tout est en interrelation, donc avec la nature et tout. Et d'ailleurs, bon, il n'y a pas de commencement ni de fin. D'ailleurs, c'est pour ça que les œuvres ne sont pas datées.
Oui, ça, c'est probablement un des points qui est peut-être un peu déstabilisant par rapport à oui. nos attentes
ah, ben oui, parce que
de musée.
Puis ça change votre façon de travailler aussi. Vous avez l'habitude de travailler toujours avec des dates, puis de bien documenter ça, mais là, c'est vos repères aussi, vous perdez vos propres repères un peu.
Oui, ben, en tant qu'archéologue, c'est toujours le quoi, où, quand. Donc, on a ces petites questions où on oui. veut répondre. Par exemple, quand je parlais avec Julia Burtenshaw du LACMA de Los Angeles, quand eux, ils parlaient, puis bon, ça s'est confirmé dans mes conversations aussi avec les Arawakos, quand ils parlaient aux Arawakos, c'est pas vraiment ça l'important. Pour les œuvres, pour eux, c'était vraiment quel est leur rôle, en fait, de connexion, de comment ces œuvres peuvent créer des liens à travers, entre les gens, entre les lieux, et entre les temps. Et donc, c'est pas tellement important que l'œuvre ait été faite il y a 2000 ans, parce qu'elle a encore un rôle à jouer aujourd'hui. Elle
D'accord,
est encore
ouais.
devant nous aujourd'hui. Et c'est entre autres pour ça, quand ils voyaient les cartels avec une date de début, une date de fin, pour eux, ça faisait un peu pierre tombale, si on veut.
C'est ça, oui, ça fait un peu mortuaire, je sais pas trop, là, pierre tombale, oui.
Donc,
comme vous dites.
Non, mais elles sont pas terminées, leur travail. Elles sont encore devant nous, on est encore en train d'interagir avec les œuvres. Et donc, il y a une carte avec bon, des périodes qui placent quand même un peu les gens dans, au niveau chronologique, au niveau géographique, parce qu'on est quand même conscient que ce n'est pas tout le monde qui connaît parfaitement l'histoire de la Colombie, mais vraiment, on voulait aller dans qu'est-ce que racontent les œuvres sur notre lien au cosmos, sur notre lien aux plantes et aux animaux qui peuplent le cosmos, les différentes façons de transformer les matériaux. Donc, c'était vraiment sur ça qu'on voulait mettre l'accent.
Bien sûr, aussi, on va parler justement des matériaux parce qu'il y a beaucoup de... On utilise beaucoup l'or, qui est un métaux précieux, et on sait, bon, à quel point ça a beaucoup intéressé les conquistadors européens, quoi, espagnols et tout. Alors, bien sûr, mais pour eux, justement, le matériau aussi n'a pas d'importance. Que ce soit du coton, que ce soit n'importe quoi, ou de l'or, c'est un peu la même chose, au fond.
C'est pas la même chose. Il y a une valeur, je dirais que c'est la façon dont la valeur est attribuée qui diffère. C'est-à-dire que l'or n'a pas une valeur monétaire, une valeur d'échange. On est beaucoup plus dans... Même chose quand on parlait de connexion, à quoi se relie l'or? Il y a un peu l'association de l'or avec, comme par sa couleur jaune, par le fait que ça ne change pas, avec le soleil, avec le pouvoir un peu fécondateur aussi du soleil, parfois selon les groupes avec le masculin. Et quand on voit les œuvres qui ont l'air d'être en or, en fait, parce qu'elles sont dorées, elles sont toutes faites d'un alliage qu'on appelle le tumbaga, qui est un alliage d'or et de cuivre. Et donc, je parlais de l'association de l'or au soleil. Le cuivre, qui est rougeâtre, qui se transforme, est beaucoup plus lié à la lune, avec ses phases changeantes, à l'aspect transformateur, souvent avec la féminité pour plusieurs groupes du centre.
Il y a toute une symbolique à travers ça.
Exactement. Okay. Et donc, la valeur n'est pas... on a un peu tendance, et c'était l'approche des conquistadors quand ils... carrément faisait fondre les œuvres, de penser l'or en carat, en valeur d'échange, valeur monétaire. Mais là, en fait, l'alliage a plus de valeur que l'or pur puisqu'on met ensemble le soleil et la lune.
Ah oui, alors là, ça change complètement.
Exactement.
Oui.
Et donc, c'est pas que le matériau n'a pas d'importance, mais simplement que la façon dont la valeur est attribuée change selon les gens.
Alors, c'est très éclairant tout ça. Donc, on a ces 400 pièces à peu près qu'on a dans l'exposition?
Oui, plus de 400 œuvres dans l'exposition qui vont, justement, on a des récipients en céramique, on a tous ces ornements en alliage d'or et de cuivre, on a des aquarelles contemporaines par un artiste d'Amazonie.
Et oui, il peut y avoir des œuvres qui sont plus récentes, là.
Oui, parce que si on va dans l'aspect, la majorité des œuvres sont ce qu'on appelle des œuvres archéologiques, c'est-à-dire qu'elles ont été faites avant la conquête européenne, mais il n'y a pas de rupture. Donc, il y a une violence de la période coloniale, mais les Autochtones sont toujours là aujourd'hui. Et même si, par exemple, on parlait des alliages métalliques, il n'y a plus vraiment de pratique de l'orfèvrerie chez les groupes autochtones aujourd'hui.
Ça s'est un petit peu perdu, en effet, hein, ces techniques, malheureusement.
Oui, entre autres, j'aime bien ce qui nous racontaient les Arawakos, c'est qu'ils disent que maintenant, l'or s'est caché. Et je pense que c'est assez parlant.
Oui, dans quel sens? Vous voulez dire qu'à cause du fait que les techniques se sont, se sont perdues, finalement?
Avec toutes les pressions qu'ils ont subies avec la colonisation, le matériau est allé se cacher, finalement.
Je comprends, ouais.
Donc, il est encore là, il est simplement caché. Mais donc, on a cette présence, puis beaucoup des éléments qui semblent avoir guidé la création artistique il y a 1000, 2000, 3000 ans. On retrouve ces éléments dans les traditions autochtones aujourd'hui aussi. Et ces œuvres qui ont été faites par les ancêtres des Autochtones qui peuplent la Colombie aujourd'hui, puis c'est la même chose si on parle des Premières Nations ici.
Assurément.
Ont encore une pertinence aujourd'hui pour les messages qu'elles nous apportent.
D'accord. Eh bien, alors ces pièces, ce sont en fait, on a parlé de, ça peut être des bijoux, ça mm-hmm. peut être des pièces de céramique, des pièces que l'on portait aussi mm-hmm. sur la poitrine. Il y a vraiment des choses absolument magnifiques à voir. Donc, et il y a aussi il y avait l'importance de la musique également dans cette culture autochtone de Colombie. Bien sûr, la musique qui finalement reproduit un peu les sons de la nature.
Oui, c'est ça. Donc, la musique est très importante. Même la musique participe à la création du monde dans les histoires Arawako, entre autres, mais dans plusieurs histoires fondatrices des peuples autochtones de Colombie. Et on a ça, entre autres, dans une salle qu'on a décidé de dédier à ce qu'on appelle des ocarinas. C'est comme des petites flûtes globulaires. Donc, il y en a en forme de coquillage, il y en a en forme d'oiseau. Et quand on parlait de, justement, reproduire les sons de la nature, celle en forme d'oiseau nous parle du ciel, un peu comme les oiseaux qui nous racontent leurs histoires, tandis que les coquillages, on entend la voix de l'océan, qui est la mère créatrice pour les Arawakos. Et donc, on a la chance d'avoir une trame musicale qui a été composée pour l'exposition par Luis Fernando Franco, qui est un compositeur colombien qui travaille depuis des années avec justement des ocarinas anciennes, qui a joué des ocarinas anciennes, et on les entend, donc on voit les œuvres, mais on voulait aussi que ces voix résonnent dans les salles d'exposition.
Vous avez aménagé les salles aussi de façon assez simple, hein?
Mm-hmm.
Justement pour ne pas peut-être surcharger, et puis qu'on se concentre un peu sur l'esprit, sur le message, et puis c'est ça, la dimension plus spirituelle au fond. Alors ça, c'est intéressant. Il y a évidemment toutes sortes de choses qui sont en parallèle. D'abord, juste aussi reparler, il y avait quand même à la base aussi un donateur privé, je pense, qui avait donné des œuvres aussi à un des musées, alors que ça a alimenté beaucoup.
C'est ça. En fait, il y a une collection privée qui a été acquise par le LACMA.
Le LACMA, qui est le Los Angeles County Museum of Art, oui. Alors, effectivement, et puis ça, c'est... D'ailleurs, ils ont bâti un beau catalogue. Est-ce que vous vous servez du même catalogue?
Oui, oui. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a entre autres fait la version française, donc il y a à la fois la version anglaise qui est la même qui était vendue à Los Angeles et à Houston, mais nous on a aussi la version française ici à Montréal qui a été traduite au musée ici.
Ah oui, puis là, vraiment, on y apprend plein de choses, là, vraiment, sur ces communautés, en fait, sur l'art et finalement, plein d'aspects, évidemment, que l'on ne peut pas traiter nécessairement dans le cadre de l'exposition, mais vraiment, c'est complémentaire. Et il y a aussi plein d'activités en parallèle. Ça, j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que c'est ça que j'aime au Musée des Beaux-Arts. C'est que vraiment, c'est très, très riche parce qu'on nous présente souvent des expositions, mais tout ce qu'on fait en parallèle, également, c'est intéressant, des ateliers. Vraiment, on met ça tout en relation. Alors, parlez-nous-en, effectivement, de ces activités-là. Il y en a plusieurs, hein, des ateliers de création, des choses comme ça, oui.
Oui, bien, c'est ça. On a toute une programmation. C'est toujours le principe au musée d'avoir une programmation qui accompagne les expositions. Puis d'ailleurs, la dernière salle de l'exposition est même une salle unique à Montréal, qui est une salle développée avec le département de l'éducation, qui inclut entre autres des citations de gens colombiens d'ici, de gens des Premières Nations d'ici, pour un peu ramener à la pertinence qui amène les gens à écrire leurs propres réponses à des questions comme comment prendre soin du monde, pour avoir cet aspect de quand on passait de réflexion introspective à passer à l'action, maintenant qu'on a fait l'exposition, vers où on va.
Ouais.
Puis après, il y a tous ces ateliers de création pour différents âges, qui sont gratuits, qui ont lieu devant l'exposition, entre autres pour créer un petit environnement miniature dans une petite boîte. On va aussi avoir une série de films qui va être présentée.
Oui, ça c'est intéressant. Vous avez un volet aussi. Ben, d'abord, il y a aussi en fait un documentaire sur en fait, comme on dit, les dessous de l'exposition en même temps.
Oui, ça, c'est un documentaire en 9 épisodes qui est disponible sur YouTube, donc tout le monde peut aller le chercher, qui s'appelle Unpacking the Universe et qui raconte l'histoire de l'exposition. Donc, justement, de cette première acquisition de céramique par le musée à Los Angeles, la rencontre avec les Arhuacos, comment on donne forme, si on veut, comment on transmet ce message qui est différent de notre vision du monde plus naturaliste dans des espaces qui, somme toute, sont des boîtes rectangulaires.
Oui,
Donc,
oui, oui, oui.
comment on arrive à mettre sur pied une exposition? Donc, ça, c'est le documentaire de base. Et puis, justement, comme il y a un aspect quand même très, très important dans l'exposition qui est cette interrelation avec ce qu'on appelle la nature, mais qu'ils appellent plutôt notre famille élargie, puisque nous sommes tous des
C'est
personnes.
vrai, oui.
Il y a Raisan Viafania dit prendre soin de l'humanité, c'est prendre soin de la nature. Prendre soin de la nature, c'est prendre soin de l'humanité. On ne peut pas séparer
On peut
l'humanité
pas, c'est toujours
du
relié,
reste.
forcément. Ouais.
Et donc, c'est une série de films autochtones à travers le monde, donc des Amériques, mais aussi du nord de l'Europe, Sibérie, tout ça, qui a été commissarié par Assinayak, qui est une commissaire, artiste, cinéaste inuit, et donc qui sera présenté au cinéma du musée et qui présente des films sur cette relation à la nature.
D'accord.
Mais du point de vue, donc il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages.
Alors, très intéressant cette collaboration avec le musée, le cinéma du musée, effectivement, et puis évidemment cette programmation de cette série documentaire. Il y a aussi un volet pour les tout-petits, on les oublie pas.
Oui. Donc, quand je disais, c'est ça, tous les ateliers de création, il y a différents ateliers
Oui,
selon
selon
la
l'âge.
dextérité pour
Oui.
les différents âges. Et donc, il y a 3 activités. Si je me rappelle bien, il y a faire des
Ben,
petits oiseaux
il y a le, il y
en
a,
argile.
bon, vol papillon, entre
Oui,
autres, oui,
c'est
c'est
ça.
ça. Parce qu'en fait, la Colombie abrite quand même la plus grande population de papillons au monde. Alors ça, c'est
Il
une
y a
belle
une.
découverte.
Il y a une diversité assez exceptionnelle, que ce soit pour les oiseaux, pour les mammifères terrestres, pour les papillons, qui est entre autres liée au fait qu'on va de pics de montagne à plus de 5 000 mètres d'altitude à la côte pacifique, caribéenne, l'Amazonie. Donc, tous ces écosystèmes créent une grande diversité. Et puis, c'est pour ça aussi qu'il y a l'avenue du musée, où là, c'est une murale qui est sur la diversité d'ici, des plantes et des insectes locaux, indigènes au Québec. Mais donc, c'était quand on a développé avec le département de l'éducation les activités de création, c'était un peu de penser à cette diversité, mais aussi pas nécessairement d'essayer de copier la diversité colombienne, mais plutôt les oiseaux que les enfants peuvent rencontrer ou qu'ils peuvent imaginer. La même chose pour les papillons.
Oui, c'est exactement. Donc, bon. Eh bien, c'est fort intéressant. Alors, évidemment, bon, c'est souvent concentré les fins de semaine, hein, ces ateliers-là, samedi et dimanche. Alors, je pense qu'en allant sur le site du musée, on va avoir tous les détails. Mais enfin, pour petits et grands, et évidemment, des activités selon, comme vous dites, la dextérité, l'âge des jeunes. Alors, vraiment, bon, il y a c'est tout. Et il y a aussi... c'est ça, on parle d'une zone d'exploration pour prolonger l'expérience. De quoi s'agit-il exactement?
C'est cette salle dont je vous parlais où on a les citations. On a en fait des poufs et des bancs.
Ah, c'est ça, exactement.
Pour s'asseoir, on a accès au catalogue où on peut répondre aux questions. On a des petits cartons. Il y a des gens qui nous font des dessins même. Donc, on garde tout ça aussi parce que ça va faire partir des archives de l'exposition.
De l'exposition, oui,
c'est pas ça. Mis aux poubelles à la fin, je rassure.
Non, absolument pas. Tout le monde. Et puis, bon, juste pour ajouter pour les jeunes, là, il y a l'heure du conte. C'est intéressant. Là,
oui.
C'est un conteur et musicien originaire du Panama, je pense, qui va plonger les petits et grands, hein, parce que les parents seront sans doute à leur côté, va nous plonger dans l'univers fantastique des légendes latino-américaines. Alors, d'ailleurs, bon, je pense que les jeunes, les enfants sont un petit peu initiés par certains films qui ont été présentés il n'y a pas si longtemps dans les cinémas. Oui,
qui reprennent d'ailleurs bien des éléments qui se retrouvent même aussi en archéologie.
Oui, c'est ça. Donc, évidemment, c'est passionnant que votre métier, bien sûr. Et puis, j'imagine que ça a dû être... Bon, ça s'est déroulé, vous dites, à peu près quoi, sur 10 ans,
à peu près oui.
Et vous étiez au cœur de ce parcours-là,
dès le
départ?
J'étais au courant, j'étais en contact parce que, entre autres, Julia Bertrandshaw de Los Angeles, je la connais depuis avant même qu'on soit toutes les deux travaillant dans des musées. On faisait nos études en même temps. Donc, l'exposition était sur le calendrier. Puis, bon, il y a eu tout ce qu'on connaît.
Évidemment, tout ce qu'on connaît, oui, bien sûr.
Donc, elle a été retardée et tout ça. Et donc, elle est revenue sur le calendrier à partir de 2020. Donc, c'est là vraiment que je me suis penchée plus en détail. Mais j'étais déjà en contact au cours du développement de l'exposition.
Est-ce qu'il y a des membres de la communauté est-ce que vous avez pu leur montrer le résultat un peu de cette exposition?
Pour l'instant, j'ai envoyé des photos.
D'accord. Évidemment, c'est un long...
WhatsApp fonctionne plutôt bien.
Oui, c'est ça.
Santa Marta.
C'est un long voyage que de venir voir l'exposition.
Mais en fait, on a entre autres Aysen Villafania. Si les gens visitent l'exposition, vont voir ce nom très souvent pour les citations. Et sa femme, Rubiela, qui vont venir voir l'exposition et faire un rituel d'alimentation des œuvres, tout ça, plus tard cet été.
Très intéressant. Et puis bon, vous avez aussi des guides ressources au musée.
Oui.
Qui peuvent servir d'interprètes aussi, des interprètes hispanophones. Alors vraiment, quelle belle exposition. Donc, c'est réjouissant de voir tout ce travail qui a été fait. Donc, j'invite tout le monde à visiter cette exposition présentée au Musée des Beaux-Arts, L'univers au creux des mains, splendeur des peuples autochtones de Colombie. Donc, c'est présenté, c'est ça, au Musée des Beaux-Arts jusqu'en octobre, je pense,
oui.
1er octobre.
Hein? Tout à fait.
Alors, vraiment, et puis, c'est ça, écoutez, ça a été passionnant de vous entendre. Et puis, bon, on a eu un peu plus de temps pour nous. Alors, ça a été bien parce qu'on a pu faire un peu plus le tour de cette culture. Et puis, effectivement, on s'en va réfléchir, méditer, on s'en va découvrir ces œuvres qui inspirent et qui nous montrent aussi une nouvelle façon, enfin, une façon différente d'appréhender le monde. Et de se représenter
soi-même.
Oui,
j'espère que tout le monde trouvera ne serait-ce qu'une œuvre avec laquelle se connecter. Puis merci beaucoup de l'invitation de me donner.
Ça a été un plaisir. Et puis j'invite aussi tout le monde à aller sur le site du Musée des Beaux-Arts parce que, bon, outre cette exposition, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire.
Oui.
Et puis nous qui sommes évidemment engagés avec des gens qui sont, par exemple, à mobilité réduite, on a, bien sûr, sur le site plein de choses que l'on peut faire sans avoir à se déplacer. On découvre plein d'aspects intéressants, il y a toutes sortes de choses. Allez voir, là, j'en reparlerai parce que j'en ai parlé l'an passé, puis je trouve que ça vaut la peine de le répéter à quel point pour les gens qui peuvent peut-être pas se déplacer facilement ou des gens de l'extérieur peuvent découvrir la richesse de ce musée. Alors, fort intéressant. Merci, c'est ça, merci bien, Erel Hubert, commissaire responsable de cette exposition, et à bientôt. On ira vous voir.
Merci.